Bien le bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine. Et oui, nous sommes déjà rendus à l'édition. Hey, c'est notre dernier vendredi de. Ben oui. Alors, c'est l'édition du vendredi 22 février. Voilà, c'est Hélène Bédard qui vous parle. Et en studio, roulement de tambour, Francine Forget, ma. Ta fidèle collaboratrice est avec moi.
Bonjour, bonjour Hélène. Bonjour. Elle est turbulente ce matin.
Oui, plutôt.
Ah, oui. Comment on peut faire pour, disons, faire lire davantage les ados? Les articles dont je vais traiter aujourd'hui. Et en plus, en cette première partie d'émission, je vais parler des filtres sur les médias sociaux.
Ah, je pensais que tu allais parler des filtres humains. Difficile à l'avoir des fois. Oui, très bonne. Vous l'avez bien présenté. Merci, j'ai hâte d'entendre ça. Et bonjour Mathieu. Mathieu qui est à la régie.
Bonjour, bonjour.
Alors voilà, moi de mon côté, ben, je vais y aller avec présentation de. Ben, tiens donc, comment recharger ses batteries, surtout avec l'hiver que nous avons. Et, quoi qu'il n'est pas pire que les autres, c'est juste que moi, j'ai pas de mémoire, alors je me dis qu'ils sont toutes pareilles. Et aussi, je vais vous parler de à quel âge on est heureux. On vous revient. Allez-y donc avec les ados, Madame Forget.
Et oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire lire davantage? Ben, on va se tourner vers des applis, c'est sûr. Alors, cette question à laquelle répond Chloé Frélon dans sa chronique Technopop, l'article est publié dans Québec Science, la dernière édition de mars 2019. Récemment, mais en fait, au mois d'août l'année passée, il y a une étude qui apprenait qu'un tiers des adolescents américains n'avaient pas lu un livre dans la dernière année. C'est quand même pas mal. Ne pas lire suffisamment, on sait que ça peut avoir une incidence considérable sur, ben, évidemment, la capacité à comprendre, à distinguer le vrai du faux et à s'engager aussi dans la société. Hein. Les enjeux sont moins clairs. On pense qu'ils sont, mais ils sont moins clairs, moins réfléchis. La Silicon Valley a peut-être trouvé une solution au problème. Il y a toujours une appli qui a une solution, si vous n'avez pas remarqué.
Il y a toujours une appli en solution.
Là, c'est ça. Alors, des applications mobiles comme Hooked, Yarn ou Tap, où les histoires ne sont pas racontées dans de longs paragraphes, mais plutôt avec des textos qui défilent à l'écran. Alors, imaginez-vous lire Bonheur d'occasion en texto. Le tout accompagné de vidéos, de fichiers audio et même d'interactivité avec l'utilisateur. Alors, l'objectif, il est simple, c'est d'introduire un contenu de façon rapide et dynamique. C'est sûr que le format peut sembler un peu étrange aux personnes plus âgées, mais semble-t-il qu'il captive les jeunes. Oui, une de ces applications, Hooked, a déclaré avoir 100 millions de lecteurs. Et parmi ces investisseurs, il y a des célébrités. Donc, il y a des gens qui sont des modèles ou en tout cas des idoles pour les jeunes qui y croient suffisamment pour mettre des sous, tels que Ashton Kutcher, Mariah Carey, Jamie Foxx et LeBron James. Qu'est-ce qui explique le succès de ces applications mobiles? Mais d'abord, il y a l'avènement des messages textes. Désormais, ça fait que c'est le moyen de communication le plus utilisé hein, par les Américains de moins de 50 ans. Donc, il faut en tenir compte dans une application de fiction qui, généralement, se met au niveau du public hein, où il se trouve déjà. La seconde raison, c'est inhérent à notre époque, bien qu'un peu triste. Il s'agit d'adapter les histoires à notre capacité d'attention, qui est de plus en plus réduite. Ça, on le sait, hein, on a de multiples appels dans une minute de toutes sortes de choses et disons que notre concentration, elle est vagabonde. La fiction est construite pour stimuler le lecteur en continu, tout en lui donnant l'impression qu'il maîtrise la situation.
Mais moi, je croyais que plus notre attention était sollicitée, plus on pouvait développer développer.
Semble-t-il que non, parce que attention égale concentration. La concentration, ça nécessite un certain, je ne sais pas si le terme recueillement est bon, mais c'est celui que j'utiliserais, un certain recueillement. Des experts prédisent que ce type de littérature-là, avec des textos, va continuer à croître. Mais évidemment, ça ne devrait jamais vraiment atteindre le marché grand public, je dirais heureusement, parce qu'il s'agit d'un format qui est destiné aux adolescents. Madame Frélon, cependant, n'est pas d'accord avec ça, parce qu'elle dit que les produits destinés aux jeunes peuvent être adoptés par les adultes. Et elle cite le cas de jeux vidéo comme Fortnite. « Je lisais beaucoup, dit-elle, quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, je préfère les articles en ligne. Je ne suis pas encore consommatrice des applis de fiction, mais j'avoue avoir envie d'essayer. » La prochaine fin de semaine au chalet, je risque de rester collée à mon cellulaire, mais ça va être pour une bonne raison. Alors imaginez, hein, on a interdit le cellulaire, mais là, on ne peut plus, parce que ça sert à la lecture. La chronique Technopop de Chloé Frélon dans Québec Science, excellent. Mars 2019.
Eh bien, moi, je vais vous demander quelque chose. À quel âge pensez-vous qu'on est le plus heureux dans la vie? À quel âge?
Il y a un âge pour le bonheur?
Il paraît.
Ah oui?
Il paraît. Il semblerait qu'il y a deux phases dans notre vie. À la fin de l'adolescence, avec ceux qui sont en train de lire les applis, et après avoir franchi le cap des 70 ans, tiens donc, on va voir un peu.
Fait que là, nous, on est entre deux, là. C'est ce que je comprends.
On est entre deux. Moi, je commence à m'approcher de une des deux, là. Mais voilà. Alors, mais voyons voir avec l'étude qui a été menée par des chercheurs britanniques. Alors, pour eux, ça a été la question existentielle. Qu'est-ce que le bonheur, d'abord? Et comment on atteint cet état? La fondation qui s'appelle Résolution, c'est un groupe de réflexion britannique qui s'est intéressé de près à cette notion de bonheur. Mais ce niveau, évidemment, ne suit pas une évolution stable pendant toute notre vie. Le plus bas niveau de bonheur atteint vers la moitié de la cinquantaine. Mais ensuite, la courbe remonte graduellement jusqu'au pic des 70. Faut voir. C'est une étude.
Faut voir, en effet.
Les chercheurs ont épluché des données collectées. Beaucoup depuis 2011, quand même. C'est une étude de long terme. Et évidemment, cette étude posait quatre questions bien précises aux participants. Je vous les donne. La première, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie en ce moment? Vous pouvez faire le test vous-même, vous n'êtes pas obligé de me répondre. À quel point estimez-vous que les choses que vous faites dans votre vie ont un sens? La troisième, comment vous sentiez-vous hier? Et la dernière, vous sentiez-vous anxieux ou très anxieux hier? Voilà, c'était les quatre questions qui étaient posées aux participants. Évidemment, les réponses sont forcément subjectives. Alors, la Fondation Résolution s'est intéressée au profil des personnes qui se déclarent heureuses afin d'en dégager des tendances. Une bonne santé, évidemment, et une relation stable font partie des principaux facteurs. Et si l'emploi contribue aussi logiquement au bien-être, le type de travail aussi. Les travailleurs indépendants se disent plus heureux que les autres. Ça ne me surprend pas. Les foyers ayant des revenus plus élevés, évidemment, les contrats de travail à durée indéterminée et les propriétaires de leur logement aussi. Alors, tout ça, c'est fort intéressant. Ces facteurs économiques ont conduit George Bangham, qui est le chercheur analyste, à la recherche du bonheur. Et finalement, il conclut que c'est un ensemble d'événements, de ressources, de facteurs, de vouloir, et le bien-être viendra. Alors voilà, c'était une étude sur « À quel âge est-on le plus heureux dans la vie » de Nicolas Hasson-Fauré dans l'édition du soir Ouest-France, le 14 février 2019.
Faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière, découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Libre, vivre, libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star. Des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan, prêt à cracher ses temps de lave et de soleil et de joie de vivre.
La joie de givre, la joie de vivre, selon Jacques Higelin.
Et voilà, on a givré un peu, des fois c'est un peu froid, mais on va surtout vivre. Merci Mathieu. Madame Forget, Madame Francine Forget va nous parler des filtres.
Sur les médias sociaux. En fait, je vais faire référence à un article d'Isabelle Morin qui est paru dans la Presse Plus du 16 février 2019. Vous savez certainement que Snapchat et autres, mais on va parler surtout de Snapchat, peut appliquer sur un selfie une série de filtres qu'on dit amusants. Hein, installer des oreilles de lapin, un museau d'écureuil, allonger nos cils, laver notre visage de ses imperfections, en fait, se faire maquiller sans qu'on ait touché un seul pinceau. Alors, la peau, tout à coup, est devenue sans rides, les yeux sont plus grands et clairs, les traits plus symétriques. En fait, c'est nous, mais on ne se reconnaît pas tout le temps. Les chercheurs, à l'origine d'un rapport publié dans la revue de l'Association médicale américaine JAMA pour la médecine esthétique et plastique, ben, ils ont des petites peurs. Hein. Ils se disent, ces images retouchées, ça peut avoir des effets désastreux en déclenchant notamment des cas de dysmorphie corporelle, hein, un trouble qui est associé aux personnes obsédées parce qu'elles perçoivent d'elles-mêmes. Mmh. Mais oui, hein, les défauts physiques, c'est terrible et tout ça, et on veut les modifier. D'ailleurs, il semblerait que la moitié des chirurgies esthétiques, en fait plus de la moitié, 55 % se rapportent à des cas de patients qui veulent changer leur apparence afin de mieux paraître sur leur selfie.
Ben, c'est pas...
C'est pas vrai. On peut en douter. Hein? Des fois, les études, comme on disait tantôt, on peut douter un peu des conclusions, d'autant plus que c'est pas toujours des études nécessairement scientifiques. Ceci dit, c'est pas un jugement que je porte là, sur la statistique que je viens de vous donner, mais il reste que c'est... Il y a beaucoup de statistiques maintenant rapportées dans les médias. Pourtant, la plupart des gens vont reconnaître que la majorité des images auxquelles sont exposées, ils sont manipulées. Hein? On le sait, on le sait. C'est ce que soutient la psychologue Stéphanie Léonard Et on le sait très bien que, en fait, on fait ça souvent, mais au fond de nous-mêmes, on sent une petite incohérence, hein, parce que on n'est pas capable de s'empêcher de se comparer. On a un petit peu de misère à se dire. On sait que c'est pas toujours sain de faire ces démarches-là, mais on sait aussi que ces images-là, ça n'existe pas, mais on veut y ressembler, soutient la spécialiste, qui est aussi une spécialiste en troubles alimentaires et de l'image corporelle.
Un rêve.
Un rêve. Oui, c'est ça. On veut comme se placer dans un film, une image, une vidéo. D'un côté, on veut présenter une image magnifiée de soi et obtenir en retour des commentaires positifs qui fait que ça, on se sent bien. De l'autre, on se dévalorise en se comparant aux autres. Ce qu'on sait, c'est que plus une personne utilise les médias sociaux, plus elle va accorder de l'importance à son apparence et plus elle en sera insatisfaite. L'effet n'est pas le même chez tout le monde, précise cette spécialiste. Je rappelle qu'il s'agit de Stéphanie Léonard. Il faut faire attention de ne pas diaboliser les médias sociaux. Les gens qui ont des insécurités au sujet de leur apparence, bien, finalement, ils sont anxieux, puis ils ont une estime d'eux-mêmes qui est plus fragile, sont plus vulnérables, et les médias sociaux, ça ne fait qu'amplifier, finalement, cette situation-là. Quand on renforce par des commentaires positifs une image filtrée, on envoie aussi le message que c'est mieux que quand il n'y a pas de filtre. Alors, évidemment, ça nous incite à aller voir de ce côté-là. Alors, ces filtres qui, finalement, font qu'on ne se ressemble plus quand on se regarde sur les médias sociaux. C'est Isabelle Morin qui en parlait dans la Presse Plus du 16 février 2019.
Alors voilà, moi, je vais vous montrer comment recharger vos batteries. Eh oui, s'énergiser, remontrer ses piles. C'est le moment de l'année où il y en a qui commencent à être à plat. Mais pas pour longtemps. Moi, je vous ai trouvé des petits moyens là, de venir à bout de tout ça. C'est pas jojo d'être au bout du rouleau. Alors, il faut retrouver son énergie optimale au plus vite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment le faire? J'ai lu ça, je trouve ça belle fun. Expirer. On dit toujours inspirer, ça, mais il faut la sortir, cette air-là. Eux autres, ils disent, prenez des grandes inspirations pour vous détendre, c'est bien correct, mais est-ce qu'on expire assez? L'exemple est donné, puis je vais vous le servir. C'est comme un wagon de métro bondé. OK? On doit laisser sortir les gens avant d'entrer. Non, mais je la trouvais amusante, celle-là. Ça, c'est le fun. Mais je trouve que c'est vrai aussi. Bon, expirer. Faire l'exercice à peu près toutes les heures, OK? Ou même mettre ton alarme sur un cellulaire juste pour y penser. Puis le faire surtout au moment du coucher. Intéressant. Je vais l'essayer. Et chanter. Chanter, c'est du bonheur. Ça provoque une montée de dopamine. C'est notable sur notre bien-être. Ça nous apporte du bonheur. Chanter. Chanter n'importe comment, mais chanter quelque chose. On dit aussi, assouplissez vos muscles. Plus on est souple, moins on dépense d'énergie. Dieu que c'est vrai, il fallait y penser, hein? Et la bonne nouvelle, manger des féculents, j'y viens. Alors, les fameux pains, là, pain, patates, pommes de terre, je pense qu'il y en a d'autres, là. Alors, notre cerveau, imaginez donc les carburoglycides, ça, on le savait. Alors, il semblerait que maintenant, on n'en consomme pas assez. Si on n'en a pas assez, on a de la difficulté à se concentrer, on va se sentir plus fatigué, plus irritable. Bon, un tel déficit envoie au cerveau un message de détresse. Là, on a une rage de sucre quand ce message-là arrive. Alors là, on mange des bonbons, du chocolat, quelque chose de bien sucré. Et madame, c'est là qu'on prend du poids. Alors, c'est pas... Pour éviter tout ça, bien évidemment, bouger. Les gens les moins fatigués, je vous le donne, c'est les gens les plus actifs. Pas besoin de s'entraîner pour faire un marathon. 30 minutes de marche par jour, bien, ça suffit. Et n'oubliez pas, on me mentionne ici dans cet article quelque chose de très intéressant, la vitamine D. Eh bien oui, Les rayons solaires sont pas assez puissants pour combler notre besoin. Alors là, c'est difficile d'en trouver en alimentation, donc ça prend une prise de supplément, mais c'est essentiel, ça. Et surtout, rester bien hydraté, rester alerte face à ça. On dit que pour une femme, il est nécessaire de boire 2 litres par jour. Peu importe que ce soit du thé, des tisanes, de l'eau aromatisée, et on se prive pas, du café aussi, mais pas plus que 4 tasses. Attention, beaucoup manger, c'est dur pour le corps. Se nourrir moins, mais plus souvent, ou diminuer ses portions. Consommer plus que ce qu'on dépense comme énergie, évidemment, ça génère un surpoids qui, lui, entraîne de la fatigue. Alors voilà, des petits trucs, s'énergiser, remonter ses batteries. Ça vient de Châtelaine et ça a été publié le mois dernier par Marie-Lise Hamelin.
Moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont: pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas: c'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables. À moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Mickey 3D, la chanson Respire.
Merci beaucoup. Francine, vous allez nous parler de quelque chose.
Ah, c'est sûr, ça c'est quelque chose. Les 7 tendances milléniales de 2019. Léger Marketing fait régulièrement, je pense que c'est une enquête annuelle, sur, en fait c'est une étude qu'il appelle son étude jeunesse. Jean-Marc Léger, en discute avec son fils. Donc, c'est une conversation père-fils qui a été rapportée dans le Journal de Montréal le 13 février dernier. Alors, une de ces tendances milléniales, capitaliste et de gauche. Alors, Jean-Marc Léger dit, bon, que les jeunes sont plus attachés à l'argent que notre génération. Semble-t-il que pour les baby-boomers, il y en avait 45 % à l'âge de 20 ans qui voulaient faire de l'argent, alors que chez les milléniaux, ça grimpe à 75 %. Réaction du fils, bien, l'argent, c'est pas un péché. On peut être capitaliste et de gauche. Pour bien des jeunes, l'importance accordée à l'argent ne les empêche pas d'être sensibles aux enjeux de société.
Okay.
Une autre tendance, environnementaliste. Alors, le père de dire, bien, à l'élection provinciale l'automne dernier, on a vu que la question environnementale était déterminante pour plusieurs électeurs. Et le fils de dire, bien, Québec solidaire a touché la corde sensible. Alors, c'est important, on a placé l'environnement au centre de leur campagne. Les jeunes se sont naturellement ralliés. Et pour terminer, avant de vous lancer la balle, Hélène, et Jean-Marc Léger, de rappeler que Marcel Léger, qui était le grand-père finalement de Philippe, le fils de Jean-Marc, qui a été, pas de Jean-Marc, mais de Philippe, qui a été premier ministre de l'Environnement du Québec, disait toujours, ben, faut pas aveuglément s'opposer au progrès, mais au progrès aveugle.
Oh,
alors je vous
que
laisse,
j'aime ça.
Je vous retourne la balle.
Que j'aime ça, effectivement. Eh bien, moi, je veux vous dire que travailler, ben, ça n'a plus d'âge. Travailler, ben, c'est se réaliser, gagner sa vie, se sentir utile, s'accomplir, atteindre des objectifs. Parfois aussi se définir ou se redéfinir. Car elle est bien terminée, l'époque où un seul emploi durait toute une vie. Les causes, bien évidemment, l'augmentation de l'espérance de vie est en tête de liste. Au Canada, l'espérance de vie, c'est de 80, 85 ans même pour les hommes et les femmes. Le nombre d'années à la retraite, bien, il a doublé, voire triplé. Alors, pour 20 ans, 25 ans ou même 35 ans sans revenus, c'est long. Alors, c'est beaucoup de temps à s'occuper. Le travail est devenu beaucoup plus qu'un salaire. C'est aussi un réseau social. Le besoin et le plaisir de transmettre aux plus jeunes donnent dans bien des cas une nouvelle dimension au travail. Car malgré les pénuries de main-d'œuvre annoncées, nombre d'employeurs n'ont pas encore mis sur place, les mesures pour faciliter le maintien ou le retour des plus de 55 ans. Plusieurs choses sont en cause. La formation, les enjeux, la mobilité, l'âgisme, les relations, les adaptations aux nouvelles technologies et bien d'autres sont en cause. C'est un dossier qui est à suivre, fort intéressant, mais qui est à suivre. Et pour nous suivre, effectivement, ne nous quittez pas. Nous nous absentons un court moment, le temps d'une pause publicitaire. Restez avec nous, on a d'autres trouvailles à vous faire part. Ah, voilà, vous êtes tous restés à notre écoute. Merci beaucoup. Nous reprenons donc et Francine Forget va vous parler des femmes.
Femmes et sciences, elles sont 20 % Alors, ce chiffre, ce pourcentage auquel réfère Marie Lambert-Chan, qui est la rédactrice en chef dans l'édition de mars 2019 de Québec Science, ça concerne les secteurs de la science et de la technologie qui demeurent des milieux d'hommes. Il y a peu de femmes qui font carrière et celles qui y sont mettent les bouchées doubles pour faire leur place. Québec Science, avec des partenaires, a produit un nouveau balado où certaines d'entre elles se racontent. Êtes-vous capable de nommer une femme scientifique célèbre? Marie Curie, voilà. Alors, c'est la réponse qui vient. Elle est facile, semble-t-il, Mathieu, celle-là. Alors donc, on va en poser un autre. Il paraît que les choses se corsent. Quand on demande, est-ce que vous en connaissez une, femme scientifique ou encore une chercheuse qui est vivante? Silence dans le studio et à la régie. La plupart sont incapables de donner des noms. C'est étonnant, non, pas vraiment. Dans les domaines de la science et de la technologie, les femmes ne forment que 20 % de la main-d'œuvre. C'est une statistique qui stagne. Parce que l'égalité des chances dans ce milieu-là, c'est un concept qui n'a pas porté encore ses fruits. Différentes études en font état. Les femmes obtiennent moins de subventions, gagnent de plus petits salaires, accèdent moins aux postes de professeurs titulaires et de gestionnaires, sont moins fréquemment invitées comme conférencières dans des rencontres internationales, reçoivent moins de prix prestigieux et les sommes d'argent associées à leurs récompenses sont souvent moins élevées. Pas juste dans ce secteur-là, on sait très bien, dans le sport, au tennis, etc., mais c'est aussi la réalité du côté scientifique. Malgré tout, il y a des femmes qui persistent, qui signent, elles sont brillantes, passionnées, elles sont courageuses, puis elles méritent qu'elles apprennent, qu'on apprenne à les connaître. Alors donc, c'est ce que propose le balado qui s'intitule 20%, qui a été coproduit par Québec Science, l'ACFAS, en collaboration avec l'UNESCO, la Commission canadienne pour l'UNESCO, L'Oréal Canada et une radio qui s'appelle choc.ca. Dans cette série d'entretiens, il y a des femmes de tous horizons, de toutes disciplines, qui parlent de leur parcours, et c'est passionnant. Elles partagent leurs réussites, leurs échecs, leurs ambitions, leurs doutes, leurs joies et leurs peines. On y découvre non seulement des scientifiques inspirantes, mais des femmes inspirantes. Alors moi, j'ai le goût de vous donner des extraits d'entretiens réalisés avec quelques-unes de ces femmes remarquables. Ces extraits, évidemment, ne sont pas audio. Je vais plutôt vous lire des capsules qui sont parues dans Québec Science et qui présentent certaines d'entre elles. À suivre.
Ah, très intéressant. Eh bien, quand on parle de femmes, moi, je vais faire une question encore une fois. Est-ce que c'est plus compliqué de manger seul au restaurant lorsqu'on est une femme? Ah, la bonne question.
C'en est toute une, en tout cas. Pourquoi ça serait plus compliqué?
Ah. Colline Pastel nous en parle un petit peu ici. C'est toujours dans mon édition du soir Ouest-France. Si on parvient à dépasser les préjugés, l'expérience peut se révéler très agréable. Estelle Masson, qui est maître de conférence en sociologie à l'Université de Bretagne, nous en parle. Le manuel d'instruction pour les jeunes filles du 19e siècle leur défendait de sortir toute seule dans un lieu public.
Oui, mais au 19e siècle, Hélène!
Oui, je comprends. Mais l'idée est demeurée. L'idée de manger seule, s'exposer au regard des autres, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas, beaucoup de femmes n'ont pas réussi à surmonter. Les générations ont passé, mais la crainte est restée, malheureusement. Manger seul au restaurant, ce n'est plus une option pour beaucoup d'entre nous. Les smartphones, et heureusement, les smartphones et les ordinateurs portables ont réussi à résoudre une partie du problème.
Ah oui, bien là, on n'est plus seul. On est accompagné de tous ceux qui sont dans notre petit appareil électronique.
Tout à fait. Ça a décomplexé les consommatrices individuelles. Puis ça l'a aidé à accélérer, à éliminer le phénomène de crainte. Il reste une exception, cependant. C'est le midi. Le midi, ça va. Ceux qui mangent seuls, celles ou ceux qui mangent seuls, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, ils ont réussi à caler là, ce moment-là, c'est un horaire, entre les autres. Mais dès que les gens le peuvent, évidemment, tout le monde préfère manger en groupe. Mais le soir, là, c'est toute une différence. C'est un moment de la journée où les gens se rassemblent. Les mangeurs solitaires sont perçus comme ceux qui n'ont personne avec qui partager le repas. Ça, c'est bien triste comme constat.
Mais c'est ça, Hélène, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est parce que c'est la solitude et cette solitude-là, elle n'est pas reliée nécessairement au sexe ou si ça s'amplifie quand c'est une femme? Est-ce que l'étude le dit?
Non et oui, finalement. Il y a plus d'hommes qui peuvent se permettre de les manger seuls, puis beaucoup de femmes s'en privent. Il faut passer par-dessus certains préjugés. Puis d'ailleurs, l'aménagement des restaurants, créer des espaces intimes avec des tables dressées seulement pour deux, si vous avez remarqué. C'est rare les places qu'il y a seules. Quand une personne seule s'installe, la première chose que fait le serveur, qu'est-ce que c'est? Il retire le couvert qui est en face de soi, car pour eux, la juste entité est au minimum un couple.
J'ai une solution, une proposition.
Allez-y.
C'est vrai, on installe de plus en plus des bars magnifiques dans les restaurants.
Oui.
Ben, on s'installe au bar.
Oui. Moi, ma solution à moi, je m'installe justement au comptoir. Ça, c'est mon bonheur parce que là, j'ai... Puis je peux jaser à gauche, à droite.
Oui,
si les gens veulent jaser,
avec le serveur.
Avec le serveur. Avec...
Oui, c'est oui. agréable.
Ça, c'est la solution. Et c'est aussi l'occasion, évidemment, quand on est au comptoir, ben, de faire des rencontres. Comme vous dites, on parle au serveur, on discute à droite, pas à gauche. Quand on est seul, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on devient plus sociable. En tout cas, c'est mon cas. Et peut-on boire un verre seul lorsqu'on est une femme? Moi, j'ai eu de très mauvaises expériences à Paris, entre autres, où ils ne laissaient pas la bouteille sur la table. Ils ramenaient la bouteille à chaque fois quelque part. Je vois Mathieu qui rit. J'essaie de vous décrire un peu le scénario. Et il rit, mais tout... C'est découvert, oui. Ils ramenaient la bouteille comme en secret, en discrétion. Je ne sais pas trop pourquoi. Tu sais, je l'avais commandé. Aussitôt que mon verre s'est vidé, il venait le remplir alors, parce que j'étais seul.
Ah oui, parce qu'il ne voulait pas qu'on vous voie avec une bouteille sur la table.
j'ai souhaité que c'était un égard doux et non pas quelque chose que, bon, elle devrait partager ça avec quelqu'un.
Prenons-le positivement. Vous avez parlé tantôt du bonheur.
Oui.
Alors, on s'en va vers le bonheur, là, nous, hein, compte tenu de l'âge qu'on a. Alors, ça fait partie de notre cheminement vers le bonheur.
Vous avez entièrement raison, parce que beaucoup, beaucoup de gens disent « ben moi, j'ai tendance à attendre que d'autres personnes se décident à m'accompagner. Tu » sais. Puis finalement, quand les gens... se désistent, ben on manque des belles opportunités. Alors, tant pis, comme vous dites si bien, moi j'y vais seul. Au pire, si je m'ennuie, ben je vais rentrer. Je vais commander juste mon apéro, puis je vais rentrer. Mais au mieux, je m'ennuie jamais. Enfin, c'était une réflexion fort amusante. Ça peut susciter beaucoup de discussions, évidemment. Ça vient donc de Colin Pastel et publié dans l'édition du soir Ouest France.
C'est pas parce que ma pauvre vie est triste, sordide et solitaire, sinistre, lamentable d'ennui, qu'elle va se passer de commentaires. J'ai plus quoi faire, je ne comprends plus. J'ai beau rester pendant des jours toute seule dans le froid et dans la rue, tout ce que je provoque, c'est des détours. Je suis en bois, mais pas de marbre. Et je me laisse prendre, je suis trop bonne. C'est grâce à moi qu'on grimpe à l'arbre, mais c'est sans moi qu'on croque la pomme. J'ai de l'amour depuis des siècles, mais personne ne retient mon nom. De Roméo, moi ou Juliette, je suis même moins connue que le balcon. On me grimpe dessus sans pourtant me trouver belle. C'est le drame méconnu de la vie d'une échelle. Paraît en plus que je porte malheur. Personne dessous, tout le monde dessus. On baliverne sur mon honneur. J'ai moins de vertu qu'une fille perdue. Et je me surprends certains matins à vouloir être quelle déchéance. Faire à cheval ou pas de lapin. Mais n'importe quoi qui porterait chance. Tiens bon le pinceau, j'enlève l'échelle. C'est fou ce que les hommes sont ingrats. Je vis la honte perpétuelle. Même les râteaux se foutent de moi. On me grimpe dessus sans pourtant me trouver belle. C'est le drame méconnu de la vie d'une échelle. Vous en trouverez, tiens, des frangines solides et qui ne posent pas de questions. Des fidèles comme une vieille copine. Non, c'est la dépression. Mais là, y a pas, j'ai du succès. Je carbure à fond chez les tordus. C'est triste à dire, mon seul ticket, c'est l'allée simple du pendu. Alors, frustré comme un vieux moine, je déblatère soir et matin sur l'honneur des peaux de banane. Faut bien se venger sur quelqu'un, car toujours on me grimpera dessus. Sans pourtant me trouver belle, c'est un drame méconnu. C'est la vie d'une échelle.
Agnès Bill, Solitude.
Francine Forget va nous amener cette fois-ci à une scientifique actuelle, contemporaine, vivante. Je vous la laisse vous la présenter.
Que vous l'avez bien décrite. Il s'agit de la docteure Joanne Liu, qui est quand même assez connue là, comparativement aux autres dont je vais vous parler aujourd'hui et la semaine prochaine. On l'a vu beaucoup dans les médias, entre autres à l'émission Tout le monde en parle. Elle est présidente de Médecins sans frontières. Alors, comme je disais précédemment, c'est un des portraits qu'on retrouve dans le balado 20% qui a été produit, entre autres, par Québec Science. Madame Liu se décrit elle-même comme une pédiatre urgentiste qui aime la science jusqu'à un certain point, mais qui préfère le sport et les mets chinois. Je vous rapporte quelques-unes des questions et réponses qui sont parues dans Québec Science mars 2019. Qu'est-ce qui vous a poussé, Madame Liu, à devenir présidente de Médecins sans frontières? C'était le désir profond de m'assurer que les patients et les communautés restent au cœur de nos prises de décision. Je ne voulais pas qu'on perde de vue l'essence de notre raison d'être. Apporter du secours aux gens en détresse dans des contextes de crise, comme des catastrophes naturelles, des conflits, de la marginalisation. Lorsque vous êtes sur le terrain, cela fait-il une différence que vous soyez une femme? Si l'être humain vit en pleine conscience, le sexe devient assez secondaire. Mais oui, il y a des circonstances qui sont plus difficiles pour une femme dans certains pays où les interlocuteurs sont souvent de sexe masculin. Cela dit, quand j'étais chargée des opérations en Afghanistan, être une femme a été une force, voire un atout, parce que ça déstabilise les interlocuteurs.
Tiens, tiens.
La déstabilisation est un atout majeur en temps de négociation. Alors, elle est rusée, là, Madame Liu, hein, n'est-ce pas? Oh. On comprend maintenant pourquoi elle rayonne à ce point. Hein? Elle rayonne beaucoup, beaucoup. Dans vos premières années de pratique au Québec, quelle a été la stratégie pour ne pas être vue avant tout comme une femme médecin, mais comme une médecin à part entière? Je pense qu'un lien thérapeutique se crée si on est capable de susciter une certaine confiance. Donc, c'est un défi supplémentaire quand vous êtes une jeune femme et que vous avez l'air d'avoir 12 ans. Parce que aussi, faut dire que Mme Liu, effectivement, elle a... disons, un profil qui fait qu'on peut facilement la prendre pour une adolescente. C'est vrai que quand j'ai commencé à exercer, si un étudiant m'accompagnait, les parents d'enfants malades s'adressaient automatiquement à lui. Mais honnêtement, mon plus gros problème n'était pas du tout d'être une femme, mais d'être une minorité visible. Oui, parce qu'elle a sûrement des origines asiatiques, j'imagine.
Oui. Oui.
Si vous aviez été un homme, comment votre parcours aurait été différent? Probablement que j'aurais des enfants aujourd'hui. C'est la dure réalité. Ça va probablement changer pour les prochaines générations. Quand j'aurais pu avoir des enfants, j'étais dans les zones de guerre. Et on ne fait pas des enfants quand on travaille en zone de guerre. En tout cas, pour moi, ça n'allait pas ensemble. Aujourd'hui, si j'étais un homme, je pourrais trouver une jeune femme pour porter mes enfants comme le font plusieurs de mes collègues masculins. Avant, j'en parlais pas. Mais maintenant, je le dis, parce que je me suis rendu compte que le fait de ne pas avoir d'enfant influence ma façon de me projeter dans le futur. Alors voilà, en résumé, en extrait de quelques questions, un des portraits présentés sur le balado 20% de Québec Science.
Quelle femme intéressante. Dans Avenue.ca, on parle ici de se réorienter au point de vue professionnel. Et j'ai ici l'exemple d'une madame, une autre madame, 59 ans, qui a décidé de se réorienter. Après une longue carrière comme fonctionnaire à la Ville de Montréal et étant experte conseil international, elle a décidé qu'elle reprenait sa carrière de façon différente. Elle a fait un baccalauréat en sciences politiques, a été analyste à Radio-Canada et elle a été impliquée une grande partie de sa vie dans le mouvement des femmes et à l'Association canadienne des centres contre le viol. Donc, c'est une femme qui est sensibilisée socialement et internationalement. Elle est devenue consultante, Elle a eu ensuite, elle a été contractuelle à la ville de Montréal. Elle a fait une immense carrière pendant 18 ans là, à ce niveau-là. Par contre, il est arrivé comme il arrive des coupures dans son milieu de travail. Et elle a dû quitter son emploi, mais tout juste avant, elle avait réussi à négocier le fameux service entre deux arrêts de la STM. Ça vient de cette madame-là de qui je vais vous parler. Elle avait réussi à développer ce réseau pour sécuriser les femmes. Mais, l'année 2000, son nouveau patron, qui n'avait aucun intérêt pour la sécurité des femmes, a marqué la fin de sa carrière. Elle avait à ce moment-là 50 ans, mais elle s'est réorientée. Elle a pris sa carrière de consultante à son compte, mais ça a été plus ou moins ça a été plutôt une descente difficile et difficile à réorganiser. Elle a qualifié ça de descente aux enfers. Elle a décidé de suivre une formation pour devenir dame de compagnie et faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie qui désiraient finir leur jour à la maison. Et passer d'un salaire de 1000 $ par jour à 14 $ de l'heure. Et aujourd'hui, attention, elle est professeure de yoga. Un jour, à l'automne 2014, elle a trouvé un morceau de casse-tête qui traînait par terre. En le ramassant, il y avait un petit morceau de plage sur le casse-tête, était écrit « Bahama ». Puis là, tout à coup, elle a pris son ordi, elle a écrit le mot « yoga Bahama » dans Google et elle est tombée sur un site qui proposait des retraites de yoga. Elle a réservé sa place. Deux jours plus tard, elle était dans un ashram, dans une des plus belles plages du monde. J'ai connu là un état de bien-être immense. Ensuite, elle a fait des séjours de karma yoga de quelques mois qui étaient gratuits, moyennant du travail en cuisine. Elle a fait un premier séjour de 2 mois durant lequel elle faisait du yoga et 7 jours sur 7, elle faisait aussi de la méditation tout en travaillant à la cuisine. Donc, c'était un heureux mélange. Elle a tellement eu la piqûre qu'elle a décidé de vendre sa maison et elle est partie aux Bahamas pendant 5 mois à faire des cours de yoga Nidra. Ensuite, elle est même allée à New York pour parfaire son niveau 2 avec le fondateur de ce fameux yoga et son niveau 3 à San Francisco. On voit que c'est une femme d'entreprise. Hein? Elle passe maintenant tous ses hivers aux Bahamas à enseigner le yoga. La question, est-ce que vous vous ennuyez de votre vie d'avant, madame? À 62 ans, je suis plus en forme que je ne l'ai jamais été. Et à la deuxième question, comment voyez-vous le futur? J'espère pouvoir enseigner jusqu'à ce que je ne puisse plus parler. C'était un texte de Julie Chaumont, paru le 8 février 2019 dans Avenue.ca, « Comment entreprendre ou une réorientation professionnelle à 59 ans ».
Je me réveille d'un rêve étrange, la joue marquée de mes phalanges un peu engourdies. Pas rêver aux anges, mon subconscient sort ses vidanges tous les mardis. Quand tu te démêles la tête, au plus que parfait. Quand tu te démêles la tête, que t'as le cœur encore aux aguets. Quand tu te démêles la tête, pour mon café, l'air abruti, grognon comme neige, pour les plus gris de mauvais ménage. J'suis comme un chien vieux. Gris sur ma médaille, c'est ben gris, moi j'ai la rage. Le téléphone sonne, je veux rien savoir, je vois personne me pomper l'air dans les parages. Je me fais cloître de mon calvaire, je remets mon son, je fais reliquaire mon ermitage. Quand tu te démêles la tête, au plus que parfait, quand tu te démêles la tête. T'as le cœur encore aux aguets quand tu t'émerges la tête. J'arrive pas à mettre bout à bout les flashs du rêve tout s'en déroute en mille images. J'prends les morceaux comme un casse-tête, j'fais mon patchwork un peu inquiet du déminage. J'trouve le fil rayon explicatif de mes lubies, d'homme inactif dans les nuages. Descends lentement sur la trottoir, sur le bitume de mes idées noires, je me déménage. Je me réveille, un rêve étrange, je me traîne à job dans un silence un peu moins gris. J'ai pas rêvé aux anges, mon subconscient sort ses vidanges tous les mardis. Quand tu démarres la tête au plus que parfait, quand tu démarres la tête, que t'as le cœur encore aux aguets, quand tu démarres la tête au plus que parfait, quand tu démarres la tête, que t'as le cœur encore aux aguets, quand tu démarres la tête, quand tu démarres la tête.
Démêle la tête, Mathieu Leroux.
Merci. Francine, vous allez nous parler de quoi maintenant?
Je poursuis avec les 7 tendances milléniales parce que tantôt, on en a. En fait, j'en ai parlé de 2. Je rappelle que c'est un texte qui est paru dans le Journal de Montréal le 13 février 2019. C'est une conversation entre Jean-Marc Léger, dont la firme a fait une étude jeunesse, et son fils Philippe. Alors, troisième tendance, cheap. Mais le père dit « ça vous empêche pas d'être dépensier quand même, les milléniaux ». Philippe de répondre « ouais, mais on est bien plus cheap que tu le crois ». C'est rarement par choix, cependant, c'est par discipline, par obligation. « Cesse de jouer les victimes », rétorque le père. « Le passage vers le monde adulte sera toujours ardu. Chaque génération a dû faire des choix puis serrer la ceinture ». Philippe dit « attends un peu, là ». L'accès à la propriété plus difficile, l'achat des biens essentiels comme l'épicerie, les vêtements, l'essence est plus dispendieux, la dette étudiante a explosé et les diplômes ne sont plus garantis d'un bon emploi. C'est ça l'obligation. Une autre tendance, entrepreneur, l'esprit d'entrepreneuriat. Alors ça se développe beaucoup au Québec. Jean-Marc Léger dit que c'est la tendance de l'heure. Il y a 40% des jeunes qui aimeraient lancer leur propre entreprise, 2 fois plus que les baby-boomers. Et lui prétend que ça va changer le Québec si, évidemment, on passe à l'action. Son fils de dire autrefois, c'était en politique qu'on pouvait changer le monde. Aujourd'hui, c'est par l'entrepreneuriat. Alors, faut pas se surprendre de ce phénomène-là, dit-il.
Je trouve ça rafraîchissant,
oui,
ce que vous dites.
Oui, oui. Les milléniaux seraient dépressifs. Alors, Jean-Marc Léger dit, vous êtes émotivement plus fragile. La majorité des jeunes vivent des périodes d'anxiété, le quart ont déjà vécu une dépression, les 2/3 sont inquiets face à l'avenir. Son fils dit que c'est probablement que leur volonté de réussir s'accompagne aussi de la peur de l'échec.
Ah, évidemment.
Oui,
évidemment.
Ils sont carriéristes aussi. Hein, les technologies nous rendent tellement plus efficaces, dit Philippe Léger. C'est plus métro, boulot, dodo, mais plutôt métro, boulot, activité, Instagram, boulot, repas, boulot, Netflix, dodo. Alors, bref, il y a de la diversité. Ouais. Jean-Marc Léger, il répond, « Oui, mais à 17h, vous n'êtes plus au bureau. Vous êtes plus indépendant qu'avant. Si votre employeur n'affiche pas les bonnes valeurs ou ne nous respecte pas, vous démissionnez. » L'équilibre travail et vie personnelle, dit Philippe, est sacré pour nous. De toute façon, avec 5% de chômage, un autre emploi nous attend. Et enfin, la dernière, hétéroclite. Philippe dit, le fils, nous ne sommes pas un bloc monolithique. Les plus vieux milléniaux ont été influencés par l'arrivée d'Internet, alors que les plus jeunes ont grandi avec le mobile. Donc, la nouvelle génération, de conclure le père, sera plus intelligente, mais espérons qu'elle soit moins artificielle.
Plein de vérité, ce que vous dites là. Hein?
Oui, mais en fait, c'est l'enquête jeunesse de Jean-Marc Léger qui, je vous l'avoue, il fait ça depuis plusieurs années et c'est toujours extrêmement intéressant.
Absolument.
Eh bien, moi, de mon côté, je vais vous parler d'une madame qui s'appelle Iris Apfel. Attention, elle signe avec une prestigieuse agence de mannequins. Et double attention, elle a 97 ans. Vous m'avez bien compris. Et voilà. Iris Apfel, elle n'a pas envie du tout de prendre sa retraite. C'est une Américaine, décoratrice d'intérieur, icône de la mode. Elle vient de signer un contrat avec l'immense agence IMG, qui représente des jeunes stars comme les sœurs Hadid et d'autres. Elle comptera parmi ses collègues les jeunes mannequins les plus en vogue. Cependant, Mme Apfel, elle ne grimpera pas sur le podium comme ses jeunes collègues.
Oh, pourquoi pas?
Bon, elle est tellement photographiée, elle est suivie par des paparazzis à travers les rues. Elle est photographiée de toutes parts, cette madame. Non, elle va plutôt travailler ensemble avec les jeunes mannequins sur des projets et probablement être leur porte-parole. Et pourquoi pas? À 97 ans, Iris continue de prouver que l'âge, ben, c'est juste un chiffre et qu'il ne devrait pas nous définir. Ces dernières années, elle a multiplié les projets. Elle a créé une gamme de maquillage pour le fabricant de cosmétiques, MAC. Elle a participé à diverses campagnes publicitaires pour Le Bon Marché, le styliste Kate Spade ou encore Citroën. Eh oui! Ses vêtements et accessoires sont exposés au Metropolitan Museum of Art de New York. Et il y a même un documentaire qui a été fait sur elle, sorti en 2018, qui icône malgré moi. Infatigable, elle n'est pas prête de lever le pied. Elle adore travailler, elle aime son travail. La retraite, elle dit que c'est pire que la mort. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite bonne santé, bonne semaine. Restez avec nous. Revenez avec nous la semaine prochaine. Au revoir.
Assurément.
Au revoir.